Donc, nous allons reprendre après cette petite pause. On va parler du mois du film documentaire pour cette dernière heure ensemble. On vous a proposé en fait de le faire en deux parties. Une première partie où on s'est dit que ça pouvait être intéressant de donner la parole à deux associations qui programment et qui accompagnent des films tout au long de l'année. Et dans une deuxième partie, on laissera la parole à Marina Miss, ma collègue des Yeux d'Oc, qui vous présentera la proposition de cette année pour les Yeux d'Oc. Et donc là, je vais tout de suite laisser la parole d'abord à Catherine Blangonnet, qui est là aujourd'hui, qui a plein de casquettes, mais qui là aujourd'hui est là pour la Ligue des droits de l'homme. Et Stéphanie Legrand parlera après pour l'association et la structure autour du 1er mai. Et elles vont vous-même vous donner plein d'informations sur ce qu'elles font tout au long de l'année. Donc, je vous laisse la parole à toutes les deux.
Ben, merci. Je suis très contente d'être parmi vous. Alors, il y a quelques années, j'aurais connu tout le monde. Mais là, je dois dire que tous mes anciens collègues sont partis à la retraite. Donc, voilà. Donc voilà, quelques années après avoir programmé des films, diffusé des films documentaires dans les bibliothèques, je me suis retrouvée à la retraite et donc j'ai adhéré à la Ligue des droits de l'homme. Et en proposant donc à la Ligue de faire des projections de films, puisque c'est ce que je savais faire. Voilà. Donc je vais vous présenter très rapidement l'association, parce que j'imagine quand même que vous en avez entendu parler, mais enfin peut-être pas tous. Et puis, je vous dirai quelle est l'activité de la Ligue en ce qui concerne le cinéma et un petit peu, si on a encore le temps, mon expérience à Paris, dans le 14e arrondissement, puisque je suis membre de la section du 14e, 6e et 7e arrondissement. Voilà. Donc, la Ligue... J'ai un bref historique, je vous laisse le lire, parce que... Voilà, donc créé au moment de l'affaire Dreyfus, comme vous le savez... au départ, c'était la défense des droits du capitaine Dreyfus, et puis la défense des droits s'est étendue aux droits économiques et sociaux, au combat antifasciste, anticolonialiste, voilà. Je vais vite. Donc aujourd'hui, la Ligue, c'est à peu près 10 000 adhérents, répartis en 315 sections, avec un certain nombre d'actions. Donc la Ligue programme à peu près 700 événements par an, donc des conférences à l'intérieur des sections, des ciné-débats également dans les sections, des formations et des interventions au milieu scolaire et universitaire. Le cœur de l'action de la Ligue, c'est les actions devant les tribunaux, puisque dans la Ligue, je pense que vous savez, il y a beaucoup de gens, enfin d'avocats, de gens du milieu judiciaire. On a des permanences juridiques également, et il y a énormément d'interpellations des pouvoirs publics. Tous les jours, il y a des communiqués de la Ligue qui sont relayés sur son site et sur sa page Facebook, enfin, et dans les journaux la plupart du temps aussi. Et vous voyez que les droits, ça couvre un très large spectre. Donc aussi bien le droit d'asile, le droit au logement, enfin, je vous laisse lire. Et donc la Ligue, le problème de la Ligue, c'est que c'est une association très généraliste. Donc en fait, elle intervient sur beaucoup, beaucoup de thèmes. En même temps, c'est ce qui fait sa force. C'est gentil. Oui, je veux bien. Voilà. Donc je vous épargne l'organisation interne de la Ligue, parce que bon, il y a un comité directeur, des groupes de travail, des sections, des fédérations, mais voilà, la Ligue a à peu près des sections dans beaucoup de villes de France. Donc si vous voulez savoir s'il y a une section de la Ligue dans votre ville, vous pouvez interroger cette carte qui est sur le site de la Ligue. Donc, vous voyez en bas, il y a votre ville, donc vous tapez le nom de votre ville et puis vous savez si il y a une section chez vous ou à proximité. Et donc vous pouvez aussi à ce moment-là prendre contact avec la section, puisque les coordonnées y sont indiquées également. Oui. Je peux continuer.
Ça y est.
Alors voilà, je crois que j'ai été trop loin, voilà. En ce qui concerne le cinéma, donc ce qui vous intéresse, la Ligue labellise des films chaque année, aussi bien des documentaires que des fictions. Et donc les films sont proposés par les distributeurs ou les producteurs et auprès du service de communication de la Ligue et un groupe de travail, enfin un groupe de visionneurs, de visionneuses en fait, il faut dire, se réunit. Enfin non, on ne se réunit pas, en fait, on reçoit des liens et on visionne les films chacun de son côté et on donne son avis. En général, on échange par mail. Donc c'est un groupe de membres de la LDH qui a plus ou moins une compétence en matière de cinéma, donc j'en fais partie aussi, et on reçoit, je dirais qu'on doit visionner à peu près une trentaine de films pour en labelliser une quinzaine chaque année. Et donc les principaux critères de sélection, c'est évidemment la qualité du film, ça vous imaginez bien, mais aussi le lien avec les différentes actions de la Ligue, enfin les différents thèmes problématiques de la Ligue, et la possibilité d'un débat après le film. C'est un critère qui peut effectivement aussi être... on peut ne pas tenir compte de la durée du film. Là, j'ai un exemple tout récent, le film de Claire Simon, Notre corps, qui fait 3 heures. Normalement, il devrait être disqualifié puisque c'est difficile d'organiser un débat après un film de 3 heures, mais en réalité, moi, je ne peux pas voter contre ce film qui est franchement, que je vous recommande, que vous allez voir sans doute bientôt. Il sort au mois d'octobre et c'est un film qu'on a vraiment envie de diffuser, en fait, sur le... Je ne vous raconte pas le film, je n'ai pas le temps, malgré l'envie que j'en ai. Donc voilà, on a... soutenu en 2022-2023, je vous ai mis quelques titres de films qui ont été soutenus. Donc la liste plus complète, elle est là. Donc vous voyez, je pense que c'est des titres qui vous disent quelque chose, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de détailler ce... Voilà. Le dernier film que j'ai programmé, moi, c'est « De l'eau jaillit le feu » de Fabien Mazzocco sur l'histoire des méga-bassines en Vendée. C'est un film militant assez beau, enfin, je veux dire, assez efficace. En général, donc, les sections s'emparent des films qui sont labellisés par la Ligue, mais pas forcément, en fait. Et les projections ont lieu, en général, dans des salles associatives ou dans des cinémas. Et donc, en 2022, on a eu 144 projections, dont 65 avec des films soutenus. Donc, ce n'est pas forcément des films qui ont eu le label de la LDH. Donc, ça, c'est les films qui ont été le plus projetés en section. Et alors, je vous montre aussi une ressource possible. Sur le site de la LDH, vous avez une rubrique qui s'appelle « Ciné-théâtre à voir », sur le côté, en bas à droite. Et là, vous avez la liste des films au fur et à mesure de leur soutien. Le dernier qui a été mis sur le site, c'est ce film dont je vous parlais, de Fabien Mazzocco, avec un petit texte de soutien du film, qui raconte pas trop le film, mais qui raconte pourquoi on le soutient à la Ligue, avec les coordonnées du distributeur. Donc, vous avez une possibilité de rechercher les films par thème aussi, sur le site. Donc ça, c'est l'adresse que je vous engage à noter. Et donc voilà, grosso modo, c'est l'activité de la Ligue en matière de cinéma. On a le temps encore ? J'ai encore une minute pour vous raconter un peu ce que je peux faire dans la section du 14e arrondissement. Donc on fait des projections à peu près tous les 2 mois. Le choix des films est fait en section, le choix des thèmes, le choix des films. En général, c'est le film qui nous a le plus bouleversé, marqué ou qui résonne avec l'actualité. Donc celui-ci, le film de Fabien Mazzocco résonnait particulièrement avec l'actualité parce que je ne sais pas si vous avez suivi les attaques de Darmanin et d'Elisabeth Borne contre la Ligue, qui nous a fait une publicité incroyable. On avait 10 000 adhérents avant, je pense qu'on en a gagné pas mal. Et dans ma section, donc dans le 14e, on a eu 65 nouveaux adhérents à la suite de, l'attaque des pouvoirs publics. Donc, bon, c'est pas ce qu'on souhaitait, mais bon. La difficulté dans ces débats, c'est que, enfin pour moi, c'est que j'ai toujours envie de parler du film. Donc souvent, j'invite les réalisateurs à venir parler de leur film. Les réalisateurs ne sont pas toujours disponibles, donc on invite des spécialistes du sujet du film. Et là, se pose la question, c'est qu'on ne va plus parler du film, on va parler du sujet. Donc je suis toujours un peu partagée quand je fais des programmes. Depuis le début, je pense que j'ai commencé en 2018, j'ai toujours programmé des films qui avaient une forte qualité cinématographique, ne serait-ce que pour former mes camarades de la section. J'ai eu quelques déconvenues de films dont on m'a dit « Ah, mais c'est nul », etc. Bon, c'est difficile à entendre, mais c'est vrai que c'est un travail à long terme. Et les gens s'habituent à des films un peu plus difficiles, avec des... Enfin, je ne sais pas si... Enfin, dans les films les plus projetés que vous avez vus, là, dans les listes que je vous ai montrées... certains n'ont pas vraiment d'intérêt cinématographique. Enfin, je ne sais pas. Non, c'est un mauvais exemple, parce qu'en fait, ils sont tous bien, ceux-là. Non, j'ai eu des... Je ne me rappelle plus du titre, en fait. Enfin, j'ai eu des soucis avec des films dont on m'a dit, mais c'était un huis clos dans un bureau d'hôpital, ça, c'est extraordinaire, c'est un film magnifique, et les gens s'ennuient, en fait. Donc voilà, il faut faire attention dans ces choix de films, de faire un compromis entre la qualité du film et le sujet. Le film de Fabien Mazzucco est un bon exemple, parce que c'est à la fois un très beau film plastiquement, sur les paysages de la Vendée, le marais Poitevin, qui est absolument sublime, et puis les soulèvements des gens du coin qui sont des portraits magnifiques, quoi. On sort du film, on est très en colère. Voilà. Donc vous pouvez solliciter pour faire des projections. Je pense que les sections seraient, enfin, les gens des sections seraient absolument ravis de faire des projections dans des salles de cinéma, dans vos salles dans les bibliothèques. Et donc, ce qui permet de multiplier le public, évidemment. Et je pense que le choix des thèmes est tellement large qu'on peut trouver un terrain d'entente sur les sujets que vous voulez aborder dans vos programmes, y compris pendant le mois du film documentaire, évidemment. Voilà.
Ça va ? C'est parfait. Merci, Catherine. Et une petite précision, donc Catherine est à l'origine aussi du mois du film documentaire, donc on trouvait ça encore plus intéressant de l'avoir aujourd'hui. Et donc, dans le petit livret que vous avez dans vos superbes sacs verts, il y a, Catherine nous a écrit un petit texte sur l'origine du mois du film documentaire. Donc voilà, comme quoi tout le cinéma documentaire reste en fil rouge, toujours.
Puis, oui, en troisième casquette, je continue à éditer la revue Images okay. documentaires que j'avais créée pour vous, pour les bibliothécaires à l'origine. Et donc voilà, il y a une offre spéciale que vous avez trouvée aussi dans vos documentations. Pour cette année, pour fêter les 30 ans de la revue, une offre d'une collection complète pour ceux qui seraient pas qui n'auraient jamais été abonnés. Ça permet d'avoir une sorte de fond de base. Et puis j'ai mis à l'entrée aussi des bulletins d'abonnement pour le dernier numéro, à partir du dernier numéro. Voilà.
Merci Catherine. Et donc, Stéphanie, on te propose donc de continuer pour nous présenter Autour du 1er mai.
Oui, alors je suis très contente de parler après Catherine. Vous allez vite comprendre le lien entre nos deux associations. Donc Autour du 1er mai, c'est une association qui est née en 2005 en Corrèze, du fait de compagnonnage avec des structures locales. C'est une association d'éducation populaire. On tient vraiment à être marqué éducation populaire, parce que c'est ce qu'on fait, ou en tout cas c'est la raison pour laquelle on est né. Et nous, notre objet, c'est de diffuser le cinéma et de le valoriser comme un outil et un témoin pour regarder le monde différemment et le transformer. Et on a vraiment cette couleur, un petit peu comme les films soutenus par la LDH, d'être à cheval sur des films qui sont beaux, mais qui aussi ont cette couleur un petit peu engagée, militante, enfin voilà, des films autour de la société et de ses questionnements. Et on organise d'ailleurs des projections conjointes. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc nous, nos activités, notre chapeau global, c'est qu'on aide toutes les structures qui cherchent à programmer des films. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui nous contactent. Ça peut être des médiathèques, ça peut être des syndicats, ça peut être des associations dont c'est pas du tout l'objet de programmer des films, mais qui, pour une raison ou une autre, ou un tel événement, vont chercher des films sur leur thématique et s'adressent à nous pour qu'on les aide à trouver des films, à la fois à trouver des films, mais aussi à les accompagner dans toute la démarche de projection, c'est-à-dire les aider à trouver les ayants droit des films, leur expliquer parfois aussi, si c'est des structures qui ne sont pas du tout habituées, quel est le cadre légal de projection, les questions de droit de projection, à quoi ça sert, qui ça rémunère, etc. Et donc ça, on le fait si les structures nous contactent, mais on a aussi un site qui s'appelle la base cinéma et société, que vous pouvez trouver sur autour du 1er mai, toutattaché.fr, qui recense à ce jour autour de 6500 films, un petit peu plus maintenant, sur les questions de société, donc qui sont classés à la fois par thématique, qu'on appelle des chemins d'accès, par exemple sur le travail, sur le féminisme, sur la science, sur l'écologie, etc. Enfin voilà, c'est des chemins, nous on appelle ça des chemins d'accès, qui sont classés aussi par période historique. On a également évidemment un moteur de recherche, voilà, comme la plateforme les Yeux d'Oc. Et puis chaque mois, et c'est ce que vous pouvez trouver dans votre petit carnet, on publie à peu près chaque mois une filmographie mensuelle thématique qui est vraiment un petit peu notre regard sur un sujet précis qui voilà, où il y a moins de films, il y a une sélection d'une dizaine ou douzaine de films sur une thématique précise, soit en lien avec une actualité. Là par exemple, on vient d'en faire une sur la justice climatique, parce qu'on a un partenaire, une maison d'édition partenaire qui vient de sortir un ouvrage sur cette question-là. Là, dans vos petits carnets, vous en avez une qui s'appelait Regard d'artiste sur un monde qui change, qu'on avait fait en décembre dernier et que j'ai choisi de mettre dans votre petit carnet parce que elle c'était la filmo de la fin de l'année et elle compilait vraiment des films qu'on avait mis en valeur tout au long de l'année et avec ce regard artistique. C'est des films très beaux. La couverture, c'est le film Le Kiosque, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est un très chouette film qu'on avait projeté dans le cadre d'un festival. Et puis la deuxième filmo que j'ai mis, c'est une filmo qu'on a fait avec un festival qui s'appelle Pêcheurs du Monde, où là ensemble on a un petit peu regardé leur programmation et choisi quelques films coup de cœur qu'on avait envie de mettre en avant. Donc voilà, ces filmographies, c'est vraiment des regards assez précis sur des thématiques, et c'est des films qu'on a vus, qu'on a aimés et qu'on conseille de projeter. Voilà, sur cette base cinéma et société sur laquelle on recense les films, donc il y a voilà toutes les informations génériques classiques que vous pouvez trouver, et on essaye aussi d'indiquer, on a quelques partenaires, par exemple quand le film est sur la plateforme Tank, on l'indique, sur Ciné Mutin quand il est soutenu par la LDH, on l'indique également et on met un petit extrait de la note de soutien. Donc voilà, on essaye de mettre en valeur comme ça quelques partenariats pour enrichir toujours ces fiches films. Et alors la couleur de la base cinéma et société, contrairement à Film Doc par exemple, aux Yeux Doc, etc., c'est que nous déjà, alors ceci dit, les Yeux Doc non plus, mais on vise pas du tout l'exhaustivité. C'est vraiment des films qu'on choisit parce qu'on fait une veille, parce qu'ils passent dans certains festivals, parce que voilà, un cercle de programmateurs nous les conseille. Enfin voilà, on vise pas l'exhaustivité, on repère les films. Et la deuxième chose, c'est que du fait des thématiques qu'on traite, on a majoritairement du documentaire. Néanmoins, ce n'est pas une condition sine qua non pour être sur la base cinéma et société. On a aussi des films d'animation, on a aussi quelques films de fiction. Voilà, c'est majoritairement du documentaire, mais pas uniquement. Donc voilà, sur les thématiques qu'on traite, vous pouvez trouver toutes sortes de films avec les infos pour les programmer. Et si vous ne trouvez pas toutes les infos, on est là pour vous aider aussi et vous accompagner là-dessus. Par ailleurs, juste deux mots avant de faire le retour d'expérience. Donc, on a cette base et cet accompagnement à programmation. Et les autres activités de notre association, c'est des activités de programmation. On organise un festival qui s'appelle les Rencontres Cinéma et Société chaque année en Corrèze, qui n'est pas un festival compétitif, qui est plutôt rétrospectif parce que c'est, chaque année, on explore une thématique différente avec des films d'hier et d'aujourd'hui, des fictions, des films d'archives, des documentaires, enfin voilà, toutes sortes de films. Et par ailleurs, on a un cycle de projection au Majestic Bastille, un dimanche par mois, en général le deuxième dimanche du mois, avec la section 10-11 de la LDH, avec Amnesty et avec l'Observatoire international des prisons, où on passe beaucoup de films soutenus par la LDH, mais pas que. Voilà, principe quasiment tout le temps, en tout cas en grande majorité des documentaires, au moment de leur sortie nationale ou en avant-première. Donc on essaye d'avoir l'équipe du film. Ce n'est pas non plus toujours évident, mais en tout cas, on essaye. Voilà pour nos activités principales. Et donc, notre retour d'expérience et ce que je voulais vous raconter à propos du mois du film documentaire, c'est que depuis plusieurs années, on mène un projet qui s'appelle Tous programmateurs, tous programmatrices, qui est un projet à l'initiative du théâtre de l'Agora, situé à Évry dans le 91, qui a une vraie politique en faveur des habitants du territoire. C'est vraiment un théâtre qui essaye de mêler les habitants à ses projets. Et donc, ce théâtre a décidé de créer un projet de confier à un groupe de jeunes en fait les clés de la programmation d'une séance de cinéma qui est vraiment qui est inscrite dans la saison culturelle du théâtre. Donc c'est pas un projet en dehors, c'est vraiment une programmation faite par un groupe de jeunes au théâtre de l'Agora. Et donc ils nous ont demandé de travailler avec eux. Et c'est un super projet. Donc en fait, le groupe de jeunes, et ça on pourra y revenir après dans les échanges, ce qui nous aide beaucoup, c'est que c'est un groupe de jeunes qui existe déjà, un groupe de jeunes déjà constitué, puisque c'est le groupe de deux structures. D'une part, le conseil municipal des jeunes de la ville d'Évry, et d'autre part, une association qui s'appelle Citoyens Agités et qui, tout au long de l'année, organise des événements, etc. Donc voilà, on a des jeunes déjà intéressés sur ces questions-là. Et donc, grosso modo, comment ça se passe? On a avec eux une première rencontre au cours de laquelle on discute et ils décident d'un thème, d'une problématique sur laquelle ils ont envie de travailler, qui peut être très large. Je vous dis les thématiques sur lesquelles ils ont travaillé. Alors, la dernière, c'était « Peut-on être une femme dans un métier d'homme ?» Il y avait eu aussi « Les inégalités sont-elles la source de la violence aujourd'hui en France ?» Et la première année, c'était « Culture au pluriel, un art de vivre ensemble ?» Point d'interrogation. Donc voilà, c'est vraiment des problématiques assez larges, à partir desquelles, nous, autour du 1er mai, on constitue un corpus de films. Et alors là, la demande du théâtre, c'était de proposer des films soit que les jeunes n'ont pas forcément les moyens de voir, soit vers lesquels ils n'iraient pas spontanément. Donc voilà, on constitue un corpus de films pas énorme non plus, parce que l'idée c'est de pouvoir tous les voir ensemble. Une fiction, quelques documentaires, quelques courts-métrages aussi. Ces films-là, on les visionne tous ensemble au cours d'une ou deux après-midi ou une ou deux journées dans une salle comme celle-là, une des petites salles du théâtre. On visionne ensemble, on en discute. Nous, autour du 1er mai, on apporte un petit peu un éclairage sur le film, sur la réalisation, etc. Et puis, à l'issue de tous ces visionnages, le groupe choisit un film. Et donc, il y a souvent pas mal de débats entre ce groupe, parce qu'il y a à la fois, est-ce qu'ils ont aimé le film, mais aussi la façon dont il répond à leurs problématiques. Est-ce qu'il ajoute de l'eau à leur moulin, ou est-ce qu'il va un peu à contre-courant? Enfin, voilà, il y a vraiment ces discussions qui sont très intéressantes entre les jeunes. Et finalement, ils commencent presque le débat à ce moment-là. Et donc, une fois que le film est choisi, sont aussi les jeunes qui vont organiser la soirée. Alors, le théâtre a missionné une journaliste qui s'appelle Nora Amadi, que peut-être vous connaissez, qui forme les jeunes au cours de 3 séances à l'animation d'une discussion un petit peu journalistique, parce que ce sont eux ensuite qui vont animer la discussion après le film. Donc voilà, ils préparent leur animation au cours d'atelier avec cette journaliste. Et puis ensuite, la séance se passe. Donc c'est eux qui ont aussi décidé qui ils inviteraient pour discuter après le film, etc. La séance se passe en général super bien parce qu'ils sont très motivés, qu'ils ont bien préparé. Et en plus, et c'est ça qui est chouette, c'est que dans le public, ils invitent aussi leurs pères, donc voilà, il y a plein de jeunes, il y a en général plusieurs groupes scolaires aussi. J'ai pas précisé, mais c'est des jeunes entre 18 et 25 ans, quoi, globalement. C'est pas des adolescents non plus, c'est des jeunes adultes. Et donc c'est vraiment un chouette projet. Et la projection se tient en général au mois de novembre dans le cadre du mois du doc. Voilà, et donc si en deux mots je devais dire un bilan de ce projet, donc c'est chouette parce que les jeunes découvrent des films vers lesquels ils n'iraient pas, etc. Après, voilà, la difficulté, enfin, nous on a la chance d'avoir un groupe déjà constitué. On a essayé de mener ce projet dans un autre cadre, en faisant un appel à qui le souhaite pour participer à un projet comme ça. C'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai que c'est voilà, si vous pouvez.
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et cette présentation. Avant de donner la parole à Marina, est-ce que vous aviez une ou deux questions à poser ? Alors.
Attendez, juste le micro, s'il alors, vous plaît.
Bah là, c'était juste pour savoir le nom du théâtre avec lequel c'était à Évry, c'est ça ?
C'est le théâtre de l'Agora, qui est la scène nationale de l'Essonne dans le 91 à Évry.
Sachant que, de toute façon, vous avez toutes les coordonnées aussi. Hein, pour les deux associations et vous avez donc les filmographies dans vos sacs verts toujours.
Est-ce qu'il y a des questions sur vous ? J'arrive. C'est enregistré.
J'ai juste une question rapide. C'est justement, je pense que ça me parle vraiment votre démarche, puisque en fait moi je suis dans une difficulté pour contacter certaines réalisatrices pour faire. Pour travailler autour de certains films, docu-fiction ou documentaires. Je voulais savoir dans quel cadre vous aidez les bibliothèques ou pas, s'il y a certaines conditions ou pas pour nous répondre, enfin nous aider, nous accompagner ou pas. Voilà.
Pour faire venir les cinéastes à vos projections ?
Oui, ou négocier aussi des droits si besoin.
Ça peut tout à fait être le cadre de notre aide à la fois trouver les droits, et en général les structures de production après nous aident à contacter les cinéastes. Alors après, je confirme aussi que c'est pas toujours évident de faire venir les cinéastes. C'est plus facile au moment de la sortie des films. Après, ils et elles sont aussi sur d'autres projets, et voilà. Alors nous, quand on organise notre festival à Tulle, c'est clairement pas évident de faire venir des cinéastes, parce que voilà. Mais on peut vous aider, mais je garantis pas le résultat forcément pour autant.
Vous avez les coordonnées aussi de Stéphanie dans le quoi autour du 1er mai dans la petite brochure, sans problème.
Je peux dire deux mots.
Oui, et puis Marina, tu vas pouvoir venir nous rejoindre pendant que Catherine précise d'autres choses.
Sur la recherche d'intervenants, vous pouvez aussi compter sur le service de communication de la Ligue pour les films soutenus. Un des critères, enfin, on demande que le logo de la Ligue soit sur l'affiche, etc., mais on demande aussi que les membres de l'équipe du film soient disponibles pour des projections. Donc vous pouvez faire appel au service de communication qui peut vous mettre en relation soit avec l'équipe du film, soit éventuellement avec un membre d'un groupe de travail spécialisé, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il y a à peu près une quinzaine de groupes de travail sur les différents thèmes, des personnes qui se déplacent et qui viennent animer des débats, ils ont l'habitude de faire ça.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir pris le temps de venir nous rejoindre comme ça en cette fin de journée et d'avoir pu préciser tout ce que vous proposez, ce qui donne aussi d'autres visions que les associations qui sont peut-être sur vos territoires. Et ça peut être intéressant du coup d'aller vers ces deux structures. Donc merci beaucoup. Et on va laisser la place du coup à Marina pour la proposition Les Yeux d'Oc.
Alors, c'est bon pour le PowerPoint. Et bonsoir. Donc je vais vous présenter la proposition qui est donc fournie par la BPI et par les Yeux d'Oc en particulier en ce qui concerne le mois du film documentaire. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première année qu'on propose un programme en particulier pour à destination des bibliothèques abonnées ou non d'ailleurs, puisque donc ça peut être aussi l'occasion de souscrire à l'offre spécifiquement pour organiser le mois du film documentaire. Alors déjà, donc préciser que les Yeux d'Oc et la BPI sont un partenaire en fait de l'association Images en Bibliothèque sur déjà la tenue du mois du film documentaire avec la sélection des films et leur présence sur la plateforme, puisque tous les films sont sélectionnés pendant les commissions nationales qui sont organisées justement par Images en Bibliothèque et largement diffusées pendant le mois du film documentaire. Et depuis quelques années, nous proposons donc une programmation en particulier, donc qui font partie des propositions partenaires. Depuis l'année dernière, le mois du film documentaire est associé à une thématique nationale. Alors cette année, donc, c'est prendre la parole, un sujet qui nous a bien inspiré donc au niveau du service cinéma de la BPI. Et donc ce que nous vous proposons pour accompagner cette programmation autour de ce sujet prendre la parole, c'est un dossier dédié autour d'une programmation de 7 films avec des informations complémentaires, des pistes d'accompagnement, un jeu de cartes qui peuvent vous aider à organiser vos animations et à tenir vos débats. Et donc ce dossier sera disponible à partir du mois de juillet, donc n'hésitez pas à vous tourner vers ma collègue Aurélie Sol si vous avez des questions concernant votre programmation, si vous avez des envies, des besoins spécifiques, à lui écrire directement ou même à l'appeler. Donc son contact est à la fin de ce slider. Et donc, ils seront disponibles à destination de tous à partir de juillet sur BPI Pro et sur les réseaux, donc les outils du réseau professionnel Les Yeux d'Oc. Alors, on programme en particulier cette film, enfin, disons qu'on va mettre en avant cette film sur la thématique Prendre la parole cette année. Mais n'oubliez pas que vous pouvez programmer tous les films qui sont présents sur la plateforme Les Yeux d'Oc. Donc, tous les films sont ouverts à la projection. Avec publicité et sans obligation d'avoir à nous prévenir, donc nous la BPI, ni les distributeurs. Vous avez les droits de projection pour programmer parmi tous les films qui sont présents sur les Yeux d'Oc avec l'offre abonnement ou via les mini-forfaits de projection. Ensuite, n'hésitez pas à nous prévenir si vous programmez ces films ou d'autres d'ailleurs, tous les films qui sont présents sur les Yeux d'Oc, puisque on met en avant on valorise en fait vos projections sur le blog Mediapart Les Yeux d'Oc ou aussi sur BPI Pro, et puis même on peut imaginer des choses sur la plateforme directement pour mettre en avant justement une carte, des projections et tout ça. On met en avant vraiment vos animations. Donc n'hésitez pas à nous écrire là-dessus. Alors je commence tout de suite par les films, puisque j'ai assez peu de temps pour présenter notre programmation de cette film. Donc le premier, c'est Au cœur du bois, qui était pas mal valorisé pour ceux qui ont fait l'atelier ce matin, puisqu'il était dans la sélection de la page d'accueil. C'est un qui nous permet d'aborder le terme de la parole au grand air, donc je l'ai renommé. Parce que, en fait, le réalisateur Klaus Drexel a l'habitude de réaliser des films documentaires choraux, donc avec différents portraits de personnages qui sont à la fois qui vivent ou qui travaillent dans l'espace public et cependant, en fait, qui restent des invisibles ou des personnages que la ville ne veut pas voir ou va avoir tendance à déléguer à l'orée des villes, dans la banlieue, par exemple. Donc, c'est le cas des personnages de ce film qui sont donc des travailleurs et des travailleuses du sexe qui travaillent dans le bois de Boulogne à l'orée de la ville dans un espace un peu je dirais, de non-droit, un espace à part, en tout cas, qui est séparé du reste de la société et donc de Paris. C'est un film qui, on peut aussi revenir sur ses précédents films, puisqu'il avait fait un film sur les sans-abri qui s'appelait Au bord du monde en 2013, je ne sais pas si certains l'avaient vu, où donc il filmait aussi de manière chorale des personnages donc, qui vivaient sous les ponts ou dans les rues de Paris. Donc là, on est un petit peu sur une approche similaire avec l'idée de magnifier le réel, puisqu'il y a quand même une certaine crudité de l'existence, hein, quand même. Ceci dans un cadre un peu plus esthétique, puisqu'à chaque fois, et c'était le cas aussi pour Au bord du monde, le réalisateur va prendre un peu de la distance vis-à-vis du sujet par le biais de l'esthétique et par le biais formel. Il va représenter ces personnages, donc c'est pour ça, en plein air, comme dans des tableaux. On se croirait un peu au 19e siècle. Enfin, il y a un côté un peu impressionniste et à la fois aussi un peu dans un cadre presque magique où on dirait un petit peu des créatures qui sortiraient de la forêt. Donc il y a un côté assez fascinant. Et dans ce cadre-là, avec le temps qui passe aussi avec ces personnages, la parole se délie et donc se met en place un dialogue entre le réalisateur et donc ces prostituées qui travaillent dans le bois. Et donc malgré les jeux d'apparence, en fait, ce qu'il y a vraiment tout un jeu de rôle aussi qui se noue. C'est comme un petit théâtre aussi qui a lieu dans le bois. Du coup, on découvre davantage sur le quotidien donc de ces personnes-là. Donc, on va regarder un court extrait avec l'un des personnages du film. Donc, c'est l'extrait de Au cœur du bois.
Mon enfance, oh, mais j'ai eu une enfance extraordinaire, une très très, très belle enfance. J'ai mon père qui était artiste lyrique, qui était chanteur d'opéra.
Voilà, très rapidement, on voit effectivement le rapport un peu pictural à la réalité avec ce cadre en scope, un grand format, et la personne au centre qui va commencer à raconter sans embâche, sans phare, enfin vraiment, et sans misérabilisme, si c'est assez important dans ce film-là, sa réalité. Donc je passe tout de suite au second film, Clean With Me After Dark de Gabriel Stemmer. C'est un film de montage, comme on dit, puisque la réalisatrice a fait l'option montage à la Fémis, et c'est son film de fin d'études qui fait partie de la collection La Fémis sur les yeux d'oc. Donc ça veut dire que le film se passe intégralement sur le bureau d'un ordinateur. C'est on appelle ça un desktop documentary. Donc on est plutôt sur un film qui va travailler la forme, avec qui va aller du côté des nouvelles images, dans l'expérimentation, qui peut se rapprocher de films où on peut évoluer dans le monde des jeux vidéo, par exemple. Voilà, on va être sur quelque chose d'esthétique, une esthétique très contemporaine, très technologique. Et hormis sa forme, ce qui est intéressant, c'est que donc, la réalisatrice compile des vidéos trouvées sur Internet de Ultimate Cleaning. Alors, je ne sais pas si vous regardez ça chez vous, mais il s'agit donc de ménage extrême, où des femmes au foyer en fait réalisent donc pendant de longues séquences des ménages très intensifs dans leur maison et qu'elles diffusent en live streaming. Donc c'est un film à dispositif, encore une fois, dans lequel malgré l'apparence un peu on va dire fantaisiste ou un peu rigolote, puisqu'au début ces vidéos peuvent faire sourire, en fait derrière se cache aussi beaucoup de solitude et un isolement véritablement de ces jeunes femmes, de ces femmes qui donc trouvent avec les réseaux sociaux une fenêtre d'écoute pour raconter aussi leur mal-être. Donc on va pouvoir passer le court extrait aussi du film Clean With Me, s'il vous plaît. Donc
voilà, on aperçoit mieux le dispositif ainsi. C'est un film qui peut parler de, enfin, qui peut permettre de parler de tout un tas de sujets vraiment passionnants, entre l'addiction aux réseaux sociaux, donc l'isolement, la dépression. Il y a vraiment plein de choses à tirer, et vraiment sur les nouvelles images, on vous invite à faire venir peut-être des spécialistes, des nouvelles formes de cinéma. Ça, on vous donnera le matériel qu'il vous faudra quand on aura trouvé quelque chose de bien, bien complet aussi, puisqu'on est encore en attente de certaines réponses. Mais voilà, donc c'est un film tout à fait intéressant à présenter, peut-être en avant-programme, il est assez court. Donc voilà, un film assez novateur. On est encore là avec la disgrâce sur un film à dispositif. C'est aussi ce que je peux repérer dans cet assemblage de notre programmation. Il y a l'idée de rendre visibles les invisibles et de donner la parole à des personnes à qui voilà, on ne confie pas forcément toujours notre écoute. Donc ce film-là, La disgrâce de Didier Crowe, va être donc une forme assez expérimentale où nous allons découvrir des personnages qui vont répondre à des questions en face de leur reflet dans un miroir. Et ces personnes ont eu un accident de la vie ou une maladie qui ont altéré fortement leur apparence physique, en tout cas leur visage. Donc aussi philosophiquement, ce que dit le visage, ce que raconte aussi les expressions, enfin, en tout cas tout est transformé avec ce film. Et ces visages qui peuvent nous interpeller dans la rue ou parfois même nous effrayer, nous questionner en tout cas, vont se raconter au fur et à mesure du film à travers donc, les entretiens que mène le réalisateur avec ces personnes et qui vont aussi trouver, il me semble, une certaine confiance en eux aussi par l'intermédiaire du projet, puisque le projet, c'est d'être pris en photo à la fin du film par les studios Harcourt. Donc il y a aussi l'idée de... ça pose des questions sur qu'est-ce que la beauté, quel regard nous portons sur nous-mêmes et sur les autres, évidemment. Donc c'est un film aussi qui peut être abordé sous l'angle de l'inclusion, du handicap, de la différence. Il y a plein de sujets à tirer autour de ce film, le sujet de la résilience, évidemment. Alors je vais vous laisser avec un petit extrait. Donc la disgrâce, s'il vous plaît. Donc voilà, donc nous avions choisi cet extrait pour cette dernière phrase, notamment pour cette phrase, ce que je vois, c'est une cicatrice et l'histoire qu'il y a derrière, parce qu'effectivement, donc ce que je disais, c'est que l'apparence effectivement nous interpelle, et là en fait c'est une occasion assez rare. En tout cas, c'est vrai que c'est un film. On n'en aura pas vu beaucoup des films sur le sujet de l'apparence, de l'esthétique, du visage, aller aussi loin en tout cas sur qu'est-ce qu'un visage nous évoque et l'histoire qu'il peut raconter, puisque effectivement cette jeune femme était au Bataclan en fait, donc c'est un peu un spoil, mais pour vous indiquer qu'elle raconte derrière un vrai traumatisme de son histoire individuelle et d'une autre histoire collective. Donc le quatrième film que nous avons choisi, c'est Girl Culture. Donc on va passer rapidement sur celui-ci. Vous avez eu toute la présentation de la réalisatrice et vous avez donc son contact, même si elle a l'air assez occupée sur la réalisation de son film de fiction, enfin l'écriture. Nos jours absolument doivent être illuminés de Jean-Gabriel Perriot. Là, l'idée, c'est prendre la parole aussi en dehors du cadre. Alors, il s'agit aussi d'un film à dispositif. Et pour ce film-là, exceptionnellement, j'aimerais voir l'extrait avant d'en parler pour ménager le suspense. Merci beaucoup pour l'extrait. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez tout de suite compris, mais c'est un film qu'on peut vraiment montrer sans forcément expliquer au départ. Ce film de Jean-Gabriel Perriot, donc en fait, c'est un film qui a été réalisé à l'issue d'un atelier de chansons en prison, d'interprétation musicale, qui devait donner lieu à un spectacle, une restitution de l'atelier avec les détenus. Et alors je crois que ça n'a pas été possible, en tout cas. Donc ils ont fonctionné différemment. Ils ont mis les enceintes en dehors de la prison. Ça se passait à la prison d'Orléans. Et en fait, du coup, les personnes sont venues écouter le concert depuis l'extérieur des murs de la prison. C'est un film assez fort, hein, au niveau de sa symbolique. Et en fait, donc, il y avait des caméramans qui étaient là pour filmer, mais c'était pour montrer aux détenus, en fait, ben voilà, leur public, quoi, savoir, à savoir sûrement des, de la famille, des amis, des proches. Et donc, c'était pour que les détenus aient donc une vision de leur institution à l'extérieur. Et en fait, quand ils ont dérushé les images, enfin Jean-Gabriel Perriot s'est rendu compte qu'il y avait un film. Et clairement, il y en a un. En fait, on va naviguer comme ça de spectateur en spectateur du concert. Et en fait, ce qui est assez fort, c'est qu'il y a un rapport au temps. Tout à l'heure, Arnaud en parlait, hein, le rapport au temps, parce que c'est un plan fixe avec une personne qui écoute et qui regarde. Et pendant ce temps, bah, en fait, le spectateur peut vraiment s'imaginer tout ce qui se noue dans la tête du spectateur, donc du spectateur du concert, c'est-à-dire quels sont les liens qui attachent le spectateur au détenu, quels sont les liens du détenu à la chanson. Et puis en fait, on imagine comme ça que l'émotion circule un petit peu de l'extérieur à l'intérieur de la prison et inversement. Donc c'est un beau film sur le hors-champ au cinéma et ce qui se passe en dehors de l'image, et on imagine tout à fait du coup les chanteurs, et on sent aussi par le biais de la voix les émotions qui circulent. Donc c'est une parole qui est prise par la musique et qui est racontée différemment. Donc on aime beaucoup ce film de la sélection. Je passe au prochain. Roland Gori, une époque sans esprit, où on arrive sur un film, c'est pas un film à dispositif, c'est un film plus classique, c'est un film sur le psychanalyste et penseur Xavier Gaillan, qui va prendre le temps de ralentir un petit peu et de raconter en fait la société et ses changements, et c'est pour ça qu'on l'a intitulé ce film prend de la parole pour dire l'époque et ralentir, puisqu'il nous raconte qu'on vit dans une époque empressée, qui ne prend plus nécessairement le temps à la réflexion, de la réflexion, une époque où l'évaluation prend le dessus sur la réflexion, la pensée. C'est un film qui peut être accompagné par des universitaires, des psychanalystes. Le réalisateur a beaucoup accompagné le film. Pour vous dire, il y a eu des centaines de projections qui ont été organisées de ce film déjà, qui marchent très bien, qui sont assez bien reçues par le public. Et là, pour prendre la parole, on est vraiment au cœur de ce sujet-là. Vous allez pouvoir l'entendre dans l'extrait qu'on va passer. En fait, on entend vraiment le fil de sa pensée. On l'entend penser en fait devant nous. Enfin, on le voit et on l'entend. Et on comprend, en fait, on va rentrer davantage dans son analyse, dans sa vision politique de la psychanalyse. On va passer l'extrait.
Dans le travail, on va dire relationnel, un travail psychique, il y a quelque chose.
Voilà, Roland Gori parle lui-même. Enfin, c'est vrai que donc on rentre vraiment dans sa pensée, que je n'ai pas envie de minimiser ou de paraphraser. Mais sachez aussi qu'on le voit aussi dans le cadre de son quotidien. Donc c'est un psychanalyste qui vit à Marseille. Donc on va aussi le voir dans ses amitiés, dans ses relations, un peu dans sa vie quotidienne. Et il continue de philosopher aussi dans ces cadres-là. Donc c'est vrai que c'est un film... Enfin, en tout cas, très chouette pour mener un débat par la suite sur effectivement la société, l'utile et l'essentiel. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser au niveau philosophique à la fin de la projection. Je ne sais pas si Aurélie, tu voudras rajouter quelque chose à la fin, puisque tu connais mieux, comme tu as interrogé Xavier Gaillan de nombreuses fois, pas nécessairement. Donc je passe sur le dernier film de notre sélection, Retour à Reims, fragment, encore de Jean-Gabriel Perriot, décidément, nous le chérissons. Alors le sujet, c'est prendre la parole pour se souvenir de ses racines. J'ai ajouté le terme des racines, c'est parce que Jean-Gabriel Perriot adapte dans ce film un texte de Didier Héribon, le sociologue Didier Héribon, qui s'appelle Retour à Reims, que vous connaissez peut-être. Et dans lequel en fait le sociologue raconte de son enfance à son âge adulte comment voilà il a découvert les inégalités sociales propres à sa condition et le milieu ouvrier dont il provient, ce qui a fait de lui donc un transfuge de classe, un peu cette si je peux utiliser cette notion un petit peu à la mode. Retour à Reims va
récupéré des fragments du texte de Didier Ribon qui sont lus par l'actrice très engagée également Adèle Haenel et surtout qui sont associés à des images d'archives. Alors tout à l'heure, Arnaud et mon collègue nous disaient que le cinéma documentaire ne peut pas parler du passé. Donc effectivement, là, on est sur cette évocation du passé, du souvenir donc, de la vie de Didier Ribon à travers donc, des archives qui sont issues de films de famille, de fonds d'archives, mais aussi de films de fiction. Donc, ils vont aller chercher dans notre imaginaire collectif, en fait, des images donc, de l'enfance, du monde ouvrier, par exemple, des travailleurs, des travailleuses dans les usines. Et tout ça pour convoquer donc, la force du texte de Didier Ribon, qui lui raconte à l'écrit, pour la convoquer en émotion, en sensorielle, enfin, d'une manière sensorielle, et faire remonter donc, ces existences, du coup, encore une fois, des invisibles. Les travailleurs du monde ouvrier, donc là, faire entendre leur voix et raconter le quotidien et l'existence de Didier Ribon. Je pense que je peux demander le passage de l'extrait pour que ça paraisse plus clair pour vous. Merci.
Je ne sais pas grand-chose de mon père.
Sois bien. Nous percevons bien la dimension biographique, effectivement, puisqu'il parle de l'enfance de son père. Et c'est vrai qu'il s'agit plus d'un portrait de son père, puisque le dernier livre de Didier Ribon parle d'un autre côté, donc de la mort de sa mère en EHPAD. Donc il est parti sur un autre sujet sociologique assez important. Donc là, on voit bien donc qui va convoquer Jean-Gabriel Payot, des archives de cinéma. Donc vous avez peut-être reconnu Zéro de conduite de Jean Vigo pour faire advenir du coup l'image. Là, on est sur un extrait assez descriptif où la voix off, donc le texte de Didier Ribon va coller avec les images d'archives, mais parfois justement il va y avoir des écarts et tout un travail justement d'interprétation, de verticalité entre le texte et l'image jusqu'à arriver à un véritable propos politique. Puisque ce film qui parle des inégalités est aussi un film de Jean-Gabriel Payot, ce n'est pas une simple adaptation du texte des Ribon. Il va aussi apporter, vous le verrez quand vous verrez le film, vous avez peut-être déjà vu puisqu'il a eu le César du meilleur film documentaire, donc il va aussi apporter son intention politique au texte de Didier Ribon. Voilà, donc je peux conclure. Nous avons terminé cette session sur le mois du film documentaire. Je te laisse la parole, Aurélie.
Hop. Merci beaucoup Marina pour cette présentation, donc dans les temps en plus. Donc tous ces films, si vous souhaitez les projeter, que ce soit dans le cadre du mois du film documentaire ou à un autre moment, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous donner plus d'infos, même si le dossier, de toute façon, vous y aurez accès par notre dossier partagé. Voilà. Donc cette journée s'achève maintenant. Vous allez recevoir tout le dossier avec toutes les interventions de la journée. Donc vous recevrez un mail avec tout ça. On reste à votre disposition s'il y a des questions qui se posent par la suite. Et puis sur les questions qui ont été posées sur l'accessibilité, sachez que c'est un dossier sur lequel on travaille. Il y a beaucoup de problématiques, donc c'est pour ça que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet qui nous intéresse. Donc c'était pour vous dire que c'était pas par manque d'intérêt, mais parce que ça soulève beaucoup de questions et beaucoup de choses. Mais on est en train de travailler là-dessus. On espère avoir de bonnes nouvelles à vous donner sur des films bientôt, plus de films accessibles. Et pour toutes les questions que vous vous posez, n'hésitez pas à nous recontacter de toute façon. Donc j'espère que cette journée a été intéressante pour vous et que vous allez repartir avec plein d'envie, plein d'idées et que vous nous les partagerez après pour qu'on puisse suivre ce que vous faites sur le terrain parce que c'est vraiment ça qui pour nous est intéressant, de savoir ce que vous faites après pour pouvoir vous accompagner au mieux le reste de l'année. Donc on est toujours preneuse de ce que vous mettez en place dans vos établissements, des difficultés ou des facilités auxquelles vous êtes confrontés, pour pouvoir après rebondir et proposer justement des journées comme ça où on essaye d'aller vers, euh, vers des questions qui peuvent vous agiter tout le reste de l'année. Donc voilà, et vous aurez un petit questionnaire justement si vous avez envie de mettre des choses. Parce que par exemple, ce qu'on a proposé cette année, c'est aussi des choses qui nous avaient été un peu suggérées l'année dernière. Donc on prend note de vos retours. Voilà. Merci beaucoup à la régie, à tous mes collègues qui sont invisibles là derrière, mais qui œuvrent depuis ce matin et même avant pour que la journée puisse se faire. Tous mes collègues qui m'ont aidée et qui ont participé pour vous accueillir ce matin et qui ne travaillent pas obligatoirement au service cinéma, mais qui, voilà, qui ont travaillé aussi avec moi. Marina, ma collègue, qui a œuvré aussi pour cette journée, Julien, et voilà, Frédéric, qui est assis parmi nous et qui a travaillé aussi sur tout ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été présente et présent aujourd'hui, et à très bientôt pour continuer à parler et à diffuser du cinéma documentaire dans les bibliothèques. Voilà, merci.